toutes et à tous qui êtes venus à la fête pour partager un moment convivial et politique. Pour commencer, je souhaite évoquer ce qui se passe depuis l'été à la fonderie du Poitou à Lu, à Châtellerault, dans la Vienne. Depuis moins de 2 ans, cette usine est la propriété du groupe Montupé, un groupe qui a beaucoup augmenté son chiffre d'affaires l'année passée et a fait plusieurs millions d'euros de profit. Eh bien, les patrons de Montupé ont un projet scandaleux. Ils veulent amputer les salaires en baissant de 15% le montant du salaire de base et en diminuant aussi de 3h30 la durée hebdomadaire du travail avec une baisse de salaire proportionnelle, ce qui ferait au total 25% en moins pour plus de 400 travailleurs. Voilà comment se comportent ces patrons qui mènent une véritable guerre de classe aux ouvriers, comme l'ensemble du patronat d'ailleurs. Ceux des grands groupes, comme PSA ou Pfizer, comme ceux d'entreprises de moins grande taille qui n'en sont pas moins rapaces. Aux fonderies du Poitou, l'arme utilisée par ceux de Montupé, c'est bien sûr le chantage à l'emploi. Mais malgré leur chantage, ils ont trouvé face à eux la résistance collective de la quasi-totalité du personnel qui est entré massivement en grève dès le 2 septembre pour faire annuler ce plan dit de compétitivité. Les travailleurs de ces fonderies ne sont pas prêts à accepter de perdre 300 ou 400 euros sur leur paie mensuelle et ils ont 1000 fois raison. Pour eux, cette perte serait équivalente à 3 mois de salaire par an. La compétitivité de l'entreprise est l'argument des patrons pour justifier leur odieux projet. Cette usine serait moins compétitive que d'autres. Mais depuis quelques années, ces fonderies, sous-traitantes de l'entreprise Renault pour laquelle ils produisent à 85%, ont été la proie de plusieurs groupes financiers ou fonds d'investissement qui ont réduit les effectifs, mis la pression sur les ouvriers et n'ont engagé aucun travaux d'amélioration de l'outil de production. Les groupes financiers Questor ou Bavaria, qui ont successivement acheté l'usine des fonderies du Poitou à Lu, n'y cherchaient qu'un profit à court terme. Et l'actuel patron, à l'image des précédents, n'est préoccupé que par le profit immédiat que peut rapporter le travail des ouvriers. Ils n'ont que faire de contraindre des centaines de familles ouvrières à vivre encore plus durement, et c'est leur choix de faire suer encore plus de profits aux ouvriers en les payant moins. Pourtant, Montupé n'est pas une entreprise en difficulté et ce n'est pas le travail qui manque dans ce groupe dont les 2 autres usines françaises tournent à plein régime. Celle de Laigneville, située dans l'Oise, tourne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. À Châteauroux, les patrons viennent de tenter de mettre en place une équipe de 2 fois 12 heures les samedis et dimanches, tentative à laquelle les syndicats ont fait obstacle après qu'une délégation d'une 20aine de grévistes soit venue en voiture depuis la Vienne pour donner un coup de pouce. Évidemment, il serait tout à fait possible de transférer une partie de l'activité dans la Vienne, de partager le travail sans aucune baisse de salaire, juste en amputant les profits, plutôt que les salaires de ceux qui n'ont que cela pour vivre. Ces patrons aux commandes d'entreprises comme Montupé, prêts à ruiner des familles, sont tout à fait comme ces grands bourgeois à la tête d'énormes capitaux qui font la pluie et le beau temps dans le monde financier et qui peuvent ruiner un État en spéculant sur sa dette comme on peut le voir avec la Grèce. Car c'est exactement ce que font ces possesseurs de capitaux, ces banquiers qui jouent au grand casino de l'économie mondiale en cherchant le placement qui rapporte un maximum et qui choisissent de retirer tous leurs jetons dès que le vent tourne ou dès qu'ils pensent que le vent va peut-être tourner. Sauf que dans le cas de ce casino-là, il n'y a pas que les joueurs qui sont en cause. Au contraire, ce sont eux qui sont les plus à l'abri, car c'est toute la population qu'ils font payer pour leur frasque. Cette bourgeoisie, elle a à son service des États qui sont chargés de garantir les dégâts et de faire payer la population, car il faut bien que quelqu'un paie. Mais justement, le monde du travail n'a pas à payer pour la bourgeoisie. Nous pouvons refuser d'être ceux qui trinquent, puisque nous ne sommes pas ceux qui profitent des milliards que l'État utilise pour sauvegarder un système qui produit d'énormes profits, même en temps de crise. Que la bourgeoisie paye donc elle-même pour les dégâts et les dettes qui sont les siens. Elle a les moyens de payer, même si son système, le capitalisme, a un fonctionnement totalement chaotique. Si elle se porte bien, la bourgeoisie, ce n'est pas seulement grâce aux cadeaux du gouvernement, c'est grâce à l'exploitation de plus en plus importante qu'elle impose aux travailleurs. Certes, le bouclier fiscal a bien profité aux plus riches. En 2009, par exemple, un peu plus d'un millier d'entre eux se sont partagés 423 millions d'euros, ce qui signifie que l'État leur a fait un chèque d'un montant moyen de 362 000 euros chacun, soit l'équivalent de 22 années de salaire d'un smicard. Et le bouclier fiscal n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi des milliards d'aides diverses, parfois indirectes, comme les crédits d'impôt recherche, dont l'enveloppe globale s'élève à des milliards d'euros et qui profitent à de très grosses entreprises comme les holdings du secteur bancaire et de l'assurance. Nous sommes loin de tout savoir, car on ne nous dit pas tout. Bien des choses restent cachées au fond des conseils d'administration, des informations qui ne dépassent pas les cercles dirigeants de la finance et des grandes entreprises. Car il n'y a aucune transparence sur les réalités financières. On sait pourtant quels sont les profits déclarés par les grandes entreprises. Si on ne retient que celles d'une CAC 40, et pourtant elles ne sont pas les seules à faire d'importants bénéfices, leurs profits ont augmenté de 10% rien que durant les 6 premiers mois de l'année, de cette année, 46 milliards d'euros, un peu plus même. Le groupe AXA, par exemple, a multiplié ses résultats par 4, tandis que le groupe Total a cumulé plus de 6,5 milliards de profits durant ses seuls 6 mois. Et c'est sans compter les milliards de bénéfices accumulés précédemment, car ces bénéfices s'étaient déjà envolés en 2010. Mais qui donc profite de cet argent? Ce ne sont pas les salariés de ces entreprises, car la très grande majorité d'entre eux n'ont vu progresser ni leur salaire, ni leurs conditions de travail. Au contraire, celles-ci se sont dégradées, car nous subissons tous de plus en plus de pression au travail. Il faut toujours travailler plus et plus vite, sauf quand il n'y a plus de travail du tout. Ce sont les propriétaires actionnaires de ces groupes qui touchent le pactole et voient grossir leur fortune personnelle, car les milliards d'euros que possèdent les nommés Arnault, Dassault, Muliez ou Peugeot viennent surtout des groupes, des profits des groupes LVMH, Auchan ou PSA que ces milliardaires possèdent et contrôlent. Mais quand la Société Générale a multiplié ses profits par 70 en un an, c'est qu'il y a eu une exploitation accrue, non seulement des salariés de la banque, mais aussi de tous les travailleurs, car la Société Générale, tout comme BNP Paribas ou le Crédit Agricole, ne prête pas de l'argent sans contrepartie. Quand elle prête à un État endetté, les taux d'intérêt forment un immense profit. Or, les États grecs ou italiens ont financé leurs dettes auprès de ces banques, entre autres. Du coup, ces banques pourraient certainement connaître des difficultés dans le cas où un de ces États s'avérerait incapable de payer, encore que ce risque soit limité par les garanties fournies par les banques centrales. En attendant, elles auront déjà perçu des sommes importantes, des milliards d'euros d'intérêts pour ces prêts. Et c'est toute la population qu'on voudrait faire payer en Grèce ou en Italie, comme ils veulent nous faire payer ici, avec leur plan d'austérité, incluant des suppressions massives d'emplois, des baisses de salaire, baisses qui sont de 20% en moyenne pour les fonctionnaires grecs. Et il ne faudrait pas croire que cela ne nous concerne pas ici. Pourtant, les restrictions, les patrons de l'État ou ceux des grandes entreprises, ils ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Et quand le gouvernement fait mine de vouloir payer tout le monde, de vouloir faire payer tout le monde, avec une taxe sur les plus gros revenus, cette taxe ne représente que le dixième de ce que les plus riches ont perçu grâce au bouclier fiscal. C'est juste de la poudre aux yeux. J'ajouterai que quand bien même Sarkozy renoncerait à s'offrir un avion personnel aux frais du contribuable et que ses ministres habiteraient un 50 mètres carrés à leurs propres frais et ne cumuleraient pas les indemnités et salaires de leurs différentes fonctions, cela ne changerait rien au problème. Les dépenses personnelles de ces larbins bien payés du capitalisme ne sont en effet qu'une façade, certes choquante, mais qui pèse très peu face au poids lourd du capitalisme et aux dommages que cause leur système. Si Sarkozy perçoit un salaire de l'ordre de 20 000 euros par mois, sans compter les avantages en nature, le PDG de Peugeot Citroën a touché en 2010 un salaire de 9 000 euros par jour. Et c'est pourtant ce même Varin, chargé de liquider l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, dans le département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis, qui fait du chantage à la délocalisation en prétendant que le coût du travail serait trop important. De son côté, celui qui a placé Varin à la tête de PSA, c'est Thierry Peugeot, un milliardaire qui, lui, touche les dividendes de ses usines. Et ces dividendes sont encore infiniment plus élevés que les émoluments somptuaires d'un Varin. Quelquefois, d'ailleurs, hauts cadres de direction et actionnaires sont une seule et même personne, comme les quatre dirigeants de Montupé, encore eux, qui, PDG en tête, ajoutent à leurs revenus de dirigeants ceux d'un gros paquet d'actions. À eux quatre, ils détiennent en effet 51% des actions de Montupé. Alors non, nous n'avons pas à payer pour les très riches, ni pour qu'ils puissent sauver leur système financier ou le capitalisme tout court, ce système qui creuse chaque jour un peu plus l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Oui, le capitalisme est en faillite. Et nous n'acceptons pas de payer pour cette faillite dont nous ne sommes pas responsables. Ce système a fait son temps. Il s'effondre de lui-même dans des flux financiers toujours plus importants. Mais qu'il ne nous entraîne pas dans sa chute comme il a déjà fait par le passé. C'est pourquoi nous devons nous préparer à imposer un plan de défense du monde du travail pour sauvegarder nos emplois et nos salaires contre tous ceux qui veulent nous faire payer la crise. Les patrons prétendent qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde, ou plus assez de travail, mais ils font faire des heures supplémentaires aux uns ou augmentent les cadences de travail pour produire plus en moins de temps. Et de cette organisation du travail, ils tirent des bénéfices accrus. Pour que tout le monde garde son emploi et pour embaucher ceux qui n'ont qu'un emploi précaire, il faudra partager le travail entre tous. Cela coûtera de l'argent, c'est sûr. Et il n'est pas question d'accepter des baisses de salaire pour ces emplois. Alors il faudra imposer aux patrons qu'ils prêtent sur les profits de l'entreprise ou même sur les profits qu'ils ont accumulés les années antérieures et qu'ils ont généralement transformés en fortune personnelle. Si on connaissait la réalité des comptes des entreprises, qui perçoit quoi? Quelles sont les sommes que les patrons se versent, non seulement en salaires ou primes, mais aussi en dividendes? On verrait bien s'ils peuvent ou non prendre sur les profits. Et bien souvent, on s'apercevrait que les patrons de Montupé, de PSA ou les autres ont les moyens de payer les salaires et de maintenir l'emploi, contrairement à ce qu'ils prétendent. Lorsque les patrons parlent de rentabilité, qu'ils considèrent une usine moins rentable qu'une autre, il ne s'agit pas des difficultés de l'entreprise. Il s'agit de mettre les travailleurs en concurrence les uns avec les autres pour tenter de baisser les salaires et en tirer un maximum de profit. Pourtant, on ne peut pas dire que les salaires sont élevés en France. La moitié des salaires nets sont inférieurs à 1300 euros. La réalité dans le monde du travail, c'est que tous les salaires sont rognés et grignotés. Et comme l'inflation pourrait bien s'accentuer dans les mois et les années à venir, il faut que les salaires suivent pour que le niveau de vie ne régresse pas dramatiquement. Pour cela, les salaires devront être réajustés à la hausse au fur et à mesure de l'évolution des prix et pas une seule fois par an ni au bon vouloir du gouvernement. Nous devrons être vigilants et mobilisés pour imposer cette échelle mobile des salaires qui est vitale pour le monde ouvrier. Il nous faudra l'imposer comme nous devrons imposer aux patrons le partage du travail entre tous, sans baisse de salaire. Il faut à tout prix empêcher que le monde ouvrier crève des politiques patronales de plus en plus agressives ou de la crise dans laquelle les spéculateurs plongent l'Europe et le monde. Et ce ne sont pas les élections à venir qui vont nous en protéger, car il n'y a rien à en attendre. Si la gauche gagnait l'élection présidentielle, nous aurions le plaisir de voir disparaître la tête de Sarkozy des écrans et des journaux, mais le vainqueur serait alors le candidat du Parti socialiste. Or, le candidat du PS, qu'il se nomme Aubry, Hollande ou Royal, ne ferait pas mieux que la droite en ce qui concerne les questions économiques et financières, les retraites, les salaires et l'emploi, car en réalité, ils n'ont pas un programme différent. Il suffit de regarder du côté de l'Espagne et de la Grèce, qui sont gouvernés par des socialistes, pour voir que ceux-ci sont tout à fait disposés à faire payer la crise aux classes populaires en supprimant des milliers d'emplois et parfois même en baissant les salaires. En France, les socialistes ne sont pas différents, car ils n'envisagent pas de contraindre la bourgeoisie à payer. Ils n'ont pas changé depuis Jospin, qui disait qu'il ne pouvait rien faire quand Michelin licenciait. S'il est vrai que les patrons sont plus puissants que les ministres, un gouvernement PS, avec ou sans le Parti communiste ou Mélenchon, ne pourra rien faire de plus, car il ne voudra pas s'en prendre à la bourgeoisie comme il serait nécessaire. Ce gouvernement ne servira qu'à faire payer la crise aux travailleurs, et quoi qu'en disent, qu'ils en disent, eux, aujourd'hui, la pilule ne sera pas moins amère avec la gauche qu'avec la droite au pouvoir. Cela veut dire que si le monde du travail ne se défend pas lui-même, personne ne le fera à sa place. Nous devons donc tous ensemble nous préparer à riposter contre les attaques qui viennent de toutes parts, du côté d'un patronat qui en veut de plus en plus, et du côté de gouvernements qui dégradent les services publics, réduisent l'emploi public par dizaines de milliers de suppressions chaque année, sous le prétexte d'économie, alors que l'argent public est injecté par milliards dans le système bancaire et financier. Pour fonctionner, l'économie a besoin de banques, mais elle n'a pas besoin de banques privées qui courent après le profit. Alors, il faudra exproprier ces banques aux comptes opaques, ces banques qui spéculent et mettent l'économie en danger, sans même jouer le rôle essentiel qu'est celui d'une banque, sauf auprès des plus fortunés qui, eux, peuvent obtenir des prêts avantageux. Nous avons besoin d'un réel service public bancaire pour que tous ceux qui doivent emprunter, en particulier les plus modestes, puissent bénéficier de prêts à bon marché. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas que l'État renfloue les banques comme il le fait, ni qu'il prenne des participations dans le système financier. Cela ne garantit nullement son bon fonctionnement. Et c'est un énorme gaspillage de l'argent public. Il faut remplacer ce système bancaire par une banque unique et transparente sous le contrôle de la population. Ce programme, qui est celui que nous défendrons dans les mois à venir et que nous voulons populariser, c'est celui dont la classe ouvrière a besoin pour empêcher une aggravation de sa situation. Nathalie Arthaud, notre candidate à l'élection présidentielle, va le faire connaître le plus largement possible avec l'aide de nous tous. Il ne comporte aucune promesse, seulement de la lucidité. Pas ce réalisme dont les défenseurs du capitalisme se targuent pour justifier les attaques contre les classes populaires, lorsqu'ils parlent de réalisme, ils veulent seulement nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les sacrifices qu'ils nous demandent. Pourtant, d'autres choix sont possibles, mais ils ne veulent pas en entendre parler, ce qui explique d'ailleurs que nous soyons si peu médiatisés. Il sera donc nécessaire d'imposer ces mesures au patronat et au gouvernement. Seule une lutte gréviste de grande ampleur et déterminée permettra d'imposer l'échelle mobile des salaires, le partage du travail et l'embauche des travailleurs précaires sans baisse de salaire. Et si les patrons ne l'acceptent pas, les travailleurs devront tout simplement les virer pour mettre en œuvre ces mesures par eux-mêmes. Pourquoi donc serait-il inimaginable d'expulser les patrons ? Eux, ils ne se gênent pas d'expulser chaque jour des travailleurs qui n'ont que leur emploi pour vivre. Récemment, Varin, le PDG de Peugeot Citroën, annonçait vouloir, je le cite, « accélérer la réduction des coûts ». Et il complète en précisant « le recours à la sous-traitance et à l'intérim nous offre de la flexibilité pour cela ». Et il peut ainsi annoncer qu'il n'y a pas de plan de départ. Ce sont pourtant bien des licenciements dont il s'agit, même s'ils n'en portent pas le nom. Et tous ces travailleurs de la sous-traitance et de l'intérim ont besoin de garder leur emploi comme les autres. Alors, plutôt que ce soit des travailleurs précaires, intérimaires, sous-traitants, ou bien les salaires des embauchés, qui constituent ce que le patronat appelle la variable d'ajustement, il faut au contraire que ce soit les profits patronaux qui varient en fonction des besoins de la production et des besoins des travailleurs. Une période de crise est difficile à vivre. Et ceux qui défendent le système capitaliste, les profits de la bourgeoisie, cherchent chaque jour à nous mettre dans la tête que les temps sont durs et qu'il faut accepter de faire des sacrifices. On en est aujourd'hui arrivé à ce que des dizaines de communes réduisent l'accès à la cantine scolaire pour les enfants de chômeurs. C'est bien souvent par simple hostilité aux plus pauvres, une démagogie qui a fait ses preuves sur le terrain électoral. Ces idées odieuses qui stigmatisent les plus pauvres, de plus en plus nombreux, sont bien le pendant d'une société où tout est fait pour les riches. Des mairies prétextent qu'elles ne pourraient pas accueillir tout le monde, qu'elles n'en auraient pas les moyens. Eh bien là aussi, il faudrait vérifier dans les comptes pour savoir si les moyens existent ou non, pour ajouter du personnel, créer un service supplémentaire de restauration ou financer les repas des enfants de chômeurs qui n'ont pas les moyens de payer. Pour ne pas être victime de ces politiques, les travailleurs, les chômeurs ont besoin de savoir la vérité. Ils doivent pour cela mettre le nez dans les affaires et exiger de savoir où va l'argent, exercer un contrôle sur les comptes et principalement ceux des patrons, car ce sont eux qui créent le chômage et sont responsables de cette situation catastrophique qui aboutit à plus de 8 millions de pauvres dans ce pays. Chaque jour, nous constatons de nouvelles manifestations de la crise du capitalisme. Et contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, ce n'est pas du libéralisme ni de la déréglementation du système dont on risque de crever. C'est bien du capitalisme lui-même, de son inéluctable logique si naturelle aux possédants. Une production anarchique, inadaptée aux besoins, car basée sur la seule loi du profit. Ce système ne peut être ni réformé ni amélioré. La crise y est inévitable. Et même quand de puissants organismes financiers supranationaux essaient de la repousser, ils ne font alors au mieux que repousser l'échéance qui arrive pourtant avec plus de violence encore. Le capitalisme n'est pas réformable et il est grand temps d'en finir avec cette organisation sociale. La situation actuelle met en évidence l'actualité du programme communiste et l'idée que cette société, dirigée par des irresponsables, doit urgemment être renversée par les millions de travailleurs qui la font non seulement tourner, mais qui produisent aussi les profits de la moyenne et de la grande bourgeoisie. Imaginable que la classe prolétaire subisse encore longtemps l'arrogance patronale et une dégradation continue de sa situation, car cela dure maintenant depuis des années, sans que des révoltes aient lieu. Quand la colère et le ras-le-bol exploseront en un puissant mouvement de contestation, il sera fondamental qu'elle ne se trompe pas d'ennemi, car les politiques qui divisent les travailleurs ou opposent une catégorie à une autre sont bien relayées par les médias et par des partis et des individus qui préfèrent affaiblir le monde ouvrier pour mieux le manœuvrer ou le mener dans une voie sans issue. Par contre, je suis persuadée que les idées que nous défendons, les idées communistes, seront une arme puissante pour les travailleurs qui sauront s'en emparer. Ces idées nous permettront de faire face au patronat dans la guerre de classe qu'il a déclarée à ceux qui produisent. Elles seront nécessaires pour mener les luttes ouvrières à la victoire et jusqu'au renversement du monde pourri des capitalistes. J'espère aussi que parmi vous, beaucoup auront envie de faire connaître ces idées et de les relayer. Nous avons d'ailleurs du pain sur la planche dans les semaines et les mois qui viennent. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite une bonne fête et je vous propose de reprendre ensemble l'International.
Après les révoltes des peuples arabes, pour ne pas tirer les marrons du feu pour d'autres, la classe ouvrière a besoin d'une politique